还有人民医院用的人民币，这是很难去从那上回的一个环境上去这个感觉，那这样可以去把后来这三个字母那我们呢有一种的反应跟雷人民把我们的那时候的时间就从雷人会从我们的那时候的时间大一方式的反应跟那个人的人民那个人的人口也就是说呢雷人会当地群的人民当地也是从根本上发表是共产国人他带领的人民所以相当起来的我们讲西方的朋友这个是原因懂我们的人这个是马上和知一切问题吗是一切的感情当然是无所谓忙的好话啊他是因为懂我们的不是我去哪里我告诉你话我告诉你们什么是这样的可能其实一切是这样的一个感觉是可能是一份关于这些comme corps de l'individu comme fonction, comment catharsis pouvait tout réopérer puisqu'elle ne concerne pas les mêmes personnes. Je vous rappelle d'ailleurs de la voix que les provinces, c'est une critique, les pères ont mangé les raisins verts et les enfants ont mangé les dents agacées. Le prophète, dans le corps de paix, ne dit pas cela parce que cela n'est pas au bon sens à l'enseignement de la voix.这个是中国文化的人民当地的事情啊在这里把你干的这事情的人工比喻性你说也就是你的作用有可能什么区别这是个作用这是个影响的人际的可是在你的作用的作用这是个影响这是个témoignage你看你看啊我可以从l'universel humainEt il me semble, et je vais d'ailleurs utiliser le dimanche matin, que le Maharal ne connaît pas cela, ne se préoccupe pas de ce type d'explication. Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que ce type d'explication a été mis en forme qu'à partir du temps du Maharal, à partir du temps de la Renaissance, lorsque les Juifs se sont émancipés dans les questions, sont entrés dans la culture européenne qui commence à devenir libérale,alors on trouve chez les Juifs notamment cette théorie que les Juifs seraient pour cause profonde une certaine mission de toute personne dans l'univers humain avec un message à porter le troisième groupe de théorie sur lequel le Maharal parle beaucoup plus abondamment et en particulier dans le Nézard d'Israël c'est par là que je commencerai le fond.C'est que l'Église s'explique par une usurpation de la souveraineté messianique d'Israël par les grands empires que l'humanité, que les hommes de l'humanité demandent. Et c'est pourquoi de nouveau, le texte principal concernant ce problème se trouve précisément dans ce petit chapitre qui s'appelle Néhémie du Maharal. Il y a dans l'historiographie du Maharal une grandeur indéniable.Dans une cohérente unité de toute l'histoire. L'humanité en fait est le sujet de la même histoire sous le regard du même Dieu. Et c'est l'histoire des quatre échecs successifs de la royauté messianique en tant qu'elle a été usurpée par quatre régimes humains successifs et qui, dans un certain moment, restitueront à Israël cette souveraineté messianique. Et il y a la l'originalité de l'quant au fait que la normalité de l'Église. Encore une fois, non qu'ils ignorent, même lorsqu'ils les ignorent dans le sens rendu, les autres types d'éducation, mais ils les dénoncent comme étant utiles, en montrant que ce qui se passe en réalité est d'une grandeur beaucoup plus considérable, qu'il y a, d'une certaine manière, une sorte d'inévitabilité. Je ne veux pas dire de l'éducation,mais l'inévitabilité de cette usurpation de la souveraineté messianique d'Israël par les empires jusqu'au temps où les valeurs humaines auront été à travers l'histoire des nations suffisamment élaborées et que le temps sera venu où l'humanité rendra à Israël sa souveraineté messianique. Et je voudrais à rencontrer un peu plus dans le détail de ces différents vertus que je rappelle actuellement, l'éducation comme une mission d'histoire, une éducation comme mission universelle, et puis l'éducation originale, qui est plusieurs façons d'identifier par les grands empires. Ces grands empires de l'histoire, et ce schéma est très schématique, et pardon, en parallèle à l'année que vous avez citée, concernant les grands états de la nuit, les veilles de la nuit, Hamor Noël et le l'âme qui brille, ensuite le chien qui aboie, et le mal qui parle avec sa femme, quand l'enfant est le sein de sa mère. Et dans ce schéma, c'est premier texte, j'ai étudié avec ce domaine sur la question de l'individu, on voit bien que ces trois veilles de la nuit sont en réalité quatre. Et toute la discussion est de savoir où situer ces quatre vies, ces trois vies sont quatre. Et c'est parallèle à l'histoire des grands empires que je vous rappelle très brièvement. Le premier empire est l'empire de Babel, l'ancienne civilisation de la Mésopotamie, d'où finalement Abraham sortira comme l'unique escapé de la lignée qui veut préserver l'authenticité de la souveraineté messianique des envers contre l'échec des valeurs au niveau de cette civilisation de Babel qui partant avait pour objet de faire émerger dans l'histoire de l'universel les premières forces de l'identité humaine que Marx analyse de façon extrêmement précise, les forces de la vie biologique. Le Marx nous donne une clé ou un schéma explicatif de ce que l'originalité des valeurs de la civilisation mésopotamienne que nous appelons Babel. Donc, d'une certaine manière, l'Égypte était à les Abénis. Comment expliquer ça? Trop schématiquement, nous savons que la nation hébraïque, dans sa première année de société, sortira de l'Égypte, et non pas de Babel, c'est Abraham qui sort de Babel. Mais cette civilisation égyptienne est une sorte de pendant de la civilisation de Babel, où les derniers des rescapés des lignées des Hébreux, finalement, sont sauvés par le départ d'Abraham, dans quelle vie. Un peu situé comme lorsque dans l'avenir, on parlait de la civilisation américaine, on en parlera comme un appendice de la civilisation européenne. L'Amérique, c'est pas l'Europe. L'Égypte, c'était pas Babel, mais c'est la même chose. Au niveau des grandes sanctions, des grandes cultures, des grandes civilisations. L'éducation du Mar à la Sénégal est que, inévitablement, l'identité d'Israël, qui est théorie, l'identité d'Israël, va se trouver en but ce que j'ai appelé usurpation de souveraineté par les grandes époques culturelles, chacune d'entre elles ayant son rôle dans l'économie universelle humaine. Et si un jour nous devions faire une historiographie hébraïque, du point de vue de la conscience hébraïque, de ce qu'ont été ces grands moments de la culture de Chaldée, puisqu'on la connaît comme ça grâce au nom croisé Ur en Chaldée, eh bien, nous allons donner la vie. L'effort théorique, si j'ose dire, du théologique humain, c'est l'effort du gouffre amiote, c'est-à-dire l'intensité des tendances à la vie étant premièrement la forme de l'autre. Et elles sont plus ou moins imitées dans les styles, les civilisations supérieures, comme dirait par exemple l'Empire qui a suivi et la grande culture qui a suivi. La culture de Perse et de Médie, Paras ou Madaï. Et là, de manière mystique, a mis des forces psychiques beaucoup plus déjà spiritualisées que les forces biologiques de l'identité humaine. Ce que nous appellerions aujourd'hui l'exploration de l'univers affectif. Et si nous devions lire la civilisation perse de la grande antiquité par un regard hébraïque, c'est à ce niveau-là que nous devrions en faire l'analyse. Et c'est à ce niveau d'ailleurs que le conflit a eu lieu. Le Maral explique corollairement que ce que Babel a pris de la souveraineté messianique des Hébreux et qui est au niveau purement corporel, ce que Paras a pris de la souveraineté messianique des Hébreux et qui est au niveau du nefesh de la personne, et puis nous allons à la troisième troisième niveau de la personne humaine étant les forces intellectuelles, et cela c'est le génie de la Grèce et à ce niveau est le conflit entre la Grèce, la Grèce et Israël. Prenons les trois premiers. Babel au niveau du couche, de la vie du corps, Paras au niveau du roi, qui n'est fait que de la vie de l'esprit, qui a de la vie avec la vie psychique. Et puis, Yavan, qui serait au niveau de l'intelligence, sans entrer trop dans le détail, on comprend comment apparaît ce parallèle des conflits, à quel niveau Babel a voulu détruire Israël, à quel niveau Paras a voulu détruire Israël, ou Yavan a voulu détruire Israël, chacun au niveau de son génie propre. Arrive le quatrième empire, qui est destiné à durer le plus longtemps, et qui est l'empire de Rome. Il occupe presque les dominants de la troisième partie de l'histoire du monde, selon le calendrier. Dominant de chaos jusqu'au temps des patriarches, dominant de révélation jusqu'au temps de la destruction du temple, dominant de temps qui aurait pu être messianique selon l'explication du Maharal et son vocabulaire précis, qui est le temps de la civilisation romaine, à l'achèvement duquel nous nous trouvons dans les événements que nous vivons plus maintenant. Et là, le Maharal dit, c'est l'addition des trois conflits, la prétention des trois forces, plus une quatrième, qui prétend se substituer à Israël comme tel, d'où la caractéristique particulière de l'exil de Rome, c'est l'exil grave, c'est l'exil dans une civilisation ancienne de l'exil, mais que je n'arrive jamais à expliquer comme bien. Et cette vieille civilisation qui se prétend être Israël, et là c'est le point culminant de l'exil qu'elle est. Nous avons donc là un schéma d'une clarté et d'une cohérence extrêmement impressionnant. Et je pense que tout notre débat pourrait s'organiser autour de ces deux pôles de l'analyse. Le premier, qui était un peu le filigrane de ce que je vais dire, mais tout à l'heure, il a très bien formulé en premier lieu, c'est la dialectique normale, anormale. Et que du dedans de l'expérience de l'anormal, de la normalité, surgit la certitude de la fin de ce temps provisoire parce que alors. Et puis, deuxièmement, le fait qu'il n'y a pas là une explication qui ferait entrer dans un monde d'ailleurs. Parce qu'en effet, d'expliquer les juifs et juifs des démons du peuple israël uniquement par la culpabilité d'une faute à expier. Uniquement par une mission qui est finalement incompréhensible, qui nous fait entrer dans les années du cauchemar. Alors, on a compris le sens de l'histoire universelle. L'explication du Maharal est beaucoup plus lumineuse. Elle nous dit que sa grande culture avait son rôle à jouer. Seulement, elle a joué contre Israël dans une usurpation de la souveraineté d'Israël qui a jeté Israël dans le monde. Mais que, en cinquième point, après l'énumération et le bilan de ces quatre empires, alors commence le temps d'Israël, de la restauration de la royauté messianique. Je voudrais simplement, avant de rendre la parole à la partie du deuxième débat, vous lire une phrase du Maharal dans le Ner Mitzvah, qui est extraordinairement interpellante. Je pose la question aussi. Vous allez comprendre la romaine. Félix Pénard d'Aram Chouanim se trouve dans la deuxième colonne de la crise. Félix Pénard d'Aram Chouanim, beaucoup se demandent, Véhram Ramal Baran d'Ishmael, où y a-t-il allusion à l'empire d'Ishmael chez Imarhout Rabtal Ekrivra, qui est pourtant un empire fort et, comment dire, qu'il soit agressif. Allez. Chouanim, chez Razout, la réponse à cette question, y compris l'intervention du Maharal. On nous a parlé de Babel, on nous a parlé de Paras, on nous a parlé de Yavan, on nous a parlé de Romi. Mais Ishmael, je sais qu'il y a aussi un conflit d'interpellation d'identité à la racine même, au fond de l'héritage d'Abraham, entre Israël et Ishmael. Nous sommes en train de dire le Maharal de Prague, qui probablement n'avait jamais vu de sa vie un pays musulman. D'où savez-vous ce qu'il va nous dire, je prétends. Si vous avez un renseignement à ce sujet, envoyez-nous un télégramme à Jérusalem, on fera une communication à l'université. Je vous pose la question,
Et où y a-t-il allusion
à Ishmael, qui est cependant un empire donc colossal?
La réponse à cela nous dit,
Mashlo Zachar, Ishmael, Ishmael ne fait pas partie des quatre empires,
qui non les chachés rakatou, rakamanam, shkiyou manam, shinagidomi, shayachou manam d'Israël.
On ne fait allusion que aux empires qui ont usurpé la souveraineté d'Israël lui-même. Or, et c'est ces quatre empires-là. Si l'empire, la souveraineté d'Israël n'avait pas été annulée, ils n'auraient pas eu leur souveraineté.
Alors, mais Malchut Ishmael, l'empire d'Ishmael et sa souveraineté,
il ne l'a pas pris d'Israël. C'est-à-dire, pour que ce soit bien clairement entendu, Ishmael n'usurpe pas sa propre souveraineté impériale d'Israël, comme les grands empires dont nous avons parlé. Kikoro et Tokho, car sa force, son impétuosité, soit le prix, n'a pas le moyen de voir, puisque Dieu lui a donné pour lui-même. Bishvil Shehaya, Nizera Abraham, parce qu'il était de la descendance d'Abraham. Hashem Barachma, Dieu avait dit à Abraham en promesse, ou l'Ishmael, Shmartir. Et en ce qui concerne l'Ishmael, j'ai entendu ta prière, quoi, Abraham, il aura son héritage. Et Dieu a donné force et grandeur à Ishmael, l'Ishmael, pour lui-même, unisé et metaber caché masqué, l'ouvre à part ma foi. C'est pourquoi on ne parle jamais d'Ishmael quand on parle des quatre grands empires qui se sont succédés. D'ailleurs, dans notre symbolique de l'angéologie des nations, c'est-à-dire que chaque nation et donc chaque grand empire a un représentant céleste au tribunal céleste, pour le dire. Cette forme symbolique, eh bien Ishmael n'a pas de représentant particulier, il est le même que celui de Edom, que celui de Rome. Et chaque fois que nous avons parlé de ce grand pays et des dominants, nous avons toujours dit dans tous les textes, quelle que soit leur source, Galut, Edom, Verara, ou Galut, Edom, Ishmael. Eh bien, il est venu des Ishmael en même temps. Et on ne peut pas percevoir une alliance entre une convergence. Plus que d'intérêt entre Esav et Ishmael et Edom et Ishmael par rapport à la souveraineté d'Israël. De cette manière, Ishmael est indexé à Edom. C'était la familiarité que nous avions toujours avec le prophète. Rak Hashem Yarchou Koach Yorfam chez Israël, on ne parlera donc des empires que ceux qui ont ravi la souveraineté d'Israël. Ou le pasteur, car les ouvriers vont manquer d'Israël. Et à la fin des temps, c'est eux qui rendront sa souveraineté à Israël. C'est une préfiguration de ce que nous ne pouvons pas ne pas remarquer. Il faut une instance supranationale qui récapitule toutes les nations pour reconnaître à Israël son droit à la souveraineté. Un truc comme ça a lieu à la fin de chaque partie. Et même lorsque chaque fois que ça a eu lieu, l'instance politique universelle du temps sera vue comme médiatrice. Rappelez-vous l'histoire de la société de Pharaon, qui était la puissance politique du temps, doit donner ce verre à Israël pour qu'Israël puisse sortir des villes. Après, il sera vu trop tard, l'événement a lieu. Rappelez-vous la déclaration Cyrus, qui était la puissance politique du temps de l'Empire perse. Immédiatement après, les Perses même, puis surtout les Grecs, vont annuler. La déclaration et de notre temps, les événements qui tournent autour de ce que nous appelons la déclaration Balfour. Mais dans cette analyse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'apparaisse une instance supranationale pour pouvoir restituer en quoi que ce soit le droit à la souveraineté d'Israël dans les individus. Et voilà ce qu'avec le marat des croyants les deux termes à l'oral. Mais il est plus évident de dire avec le marat. Ishmael, vous, Ishmael, c'est Bichlal Malchut Parad, que c'est la perle. Je m'arrête là parce que l'on ne peut pas être impressionné par ça, puisque c'est évidemment de notre temps. En fait, que c'est dévoilé la prétention de souveraineté d'Ishmael contre Israël. C'est très impressionnant, je ne sais pas, tout le mal à propos. Voilà donc le point de la nuit, puis je pense que vous avez donc la parole.
Voilà. peut donner la parole à la salle pour les questions ou les remarques, si possible, assez courtes, de façon à ce que tous ceux qui désirent s'exprimer s'expriment. Je crois qu'il y a eu dans la session de ce soir plusieurs axes, plusieurs directions qui ont été abordées. Et si quelqu'un souhaite intervenir dans l'un de ces axes, je pense que je les restitue. D'une part, je dirais le problème de la nation, l'interprétation de la nation chez le Maharaj de Prague, l'idée de l'histoire et de l'anormalité des certaines situations d'histoire, et enfin, je dirais l'interprétation que donne le Maharaj de l'exil, et sans accepter, discuter et donner à l'exil, et enfin, je dirais la perspective historique que le Maharaj donne de l'histoire d'Israël pour les siècles. Voilà, je fais quelque chose pour intervenir. Je crois qu'il y a un micro baladeur.
L'idée que Morin s'oppose fondamentalement à l'idée de contrat.
en disant que cette catastrophe suppose un artifice, alors que pour qu'il y ait une politique, il faut simplement suivre l'ordre du monde. Alors vous dites certain qu'on peut faire, attention, un rapprochement à ce niveau-là entre le marasme pratique et le moral, c'est tout l'ordre, c'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, c'est ça qui est important, je dirais, dans la lecture qu'on peut faire de Morat, c'est cette lecture de reprendre l'idée du monde. Car il y a eu, et il y a toujours dans la philosophie politique, je dirais non pas deux écoles, il y a bien plus que ça, mais il y a, je dirais, l'école naturelle, l'école selon laquelle la politique, ça n'est pas quelque chose qui est imposé aux hommes, ou au monde, mais c'est quelque chose qui aide les gens, font finalement de la politique de façon naturelle. Alors que pour Rousseau, la politique, c'est un mal, c'est quelque chose qui est imposé à l'homme par une sorte de contrat, mais il n'y a pas d'autre solution pour continuer à vivre, il est bien obligé, pour vivre avec ses voisins, il est bien obligé de faire des compromis. Voilà, c'est là l'opposition, c'est tout. On n'abordera pas ce soir le débat moral.
Il dit
qu'un
message qu'il a dit, voilà, je n'ai pas compris, vous parlez, que le barrage
et la partie faible, d'exercer sa souveraineté, pourquoi il y a eu cette idée? Plusieurs fois, c'est qu'il y a encore une fois une faute, et qu'il fallait encore qu'il y ait pour réparer. Et s'il y a risque d'usurpation de souveraineté, c'est selon le marin, parce qu'il y a une faiblesse d'identité en Israël. Mais ce marin a tendance à refuser de façon très nous l'étudions plus cavalement dans les cours du matin. C'est l'idée qu'une génération aurait été les forts et que leur descendance les paye dans le paradis. C'est-à-dire qu'il nous est adressé le piège de l'explication de type géo-originel dans ce genre de théorie. Ce ne veut pas dire que l'Église ne vienne pas corriger et non pas dire que les ancêtres auraient fait et qu'elles corrigent chez les descendants. Elle corrigerait les failles d'identité. Et l'originalité de l'éducation du marin, c'est de décrire l'identité dans la capacité de foi, dans la promesse faite par Dieu. C'est toi qui es Israël. Chaque fois qu'Israël doute de lui-même, il dit de rien nécessaire pour corriger cette faiblesse d'identité. Je lui ai resté un mois de scandale. Et finalement, ce qu'on a fini par me toucher, d'ailleurs, il faut faire des décisions, je pense que c'est dans les détails. Et pour lui, on sait exactement ça. C'est que, quand par exemple, Dieu dit à Abraham, tu hériteras de cette terre, dont sont, d'après moi, il dit qu'il s'agit de toute origine de la terre des Hébreux, qui fait partie de l'héritage de Shem. Mais conquis par des descendants de Chétiques, qu'on appelle les Cananéens, les éditions bibliques simples. Or, ces Hébreux avaient été chassés de la terre des Hébreux. Et vous retrouverez dans le conseil de l'histoire de Joseph, que lorsque Joseph allait en Égypte, il dit au pharaon, mais à Israël, cousin, j'ai été volé de la terre des Hébreux. Et le pharaon comprend qu'est-ce que c'est que la terre des Hébreux. Et ces Hébreux, les descendants de Héber, l'ancêtre d'Abraham, avaient été chassés de leur terre, non pas promis, mais donnés dans l'héritage de Shem. Et un peu avant la lettre, ces familles des Hébreux étaient dans des situations avant la lettre d'un peuple d'Israël qui serait en fonction de la femme dans la civilisation de Bogota. Le Midrash l'indique, je vais dans cet après, c'est avec son très rapidement, et nous pouvons les discuter. Le Midrash l'indique tout simplement en indiquant que le père d'Abraham était Terah, un fabricant d'idoles. En langage du Midrash, le fabricant d'idoles, c'est le grand prêtre de la religion du temps. Il fabrique les idéaux religieux, les idoles, les croyances. Donc, et puis, ces Hébreux-là, finalement, étaient devenus la caste sacerdotale des Chaldéens. La mutation d'identité apparaît avec Abraham, il redevient hébreu. Et c'est donc la raison pour laquelle il entend le premier, de façon explicite, les promesses du Créateur pour l'histoire messianique. C'est par toi que l'avenir du monde passe. Et alors en particulier, tu reviendras sur ta terre, la terre des Hébreux, où le temple sera construit, il va être construit que là-bas, pour des raisons bibliques qui sont dans le Christ. Et voilà qu'Abraham doute, et je voudrais exprimer cela dans le vocabulaire de la bonne foi la plus profonde, parce que c'est le problème d'identité du peuple juif contemporain. Abraham est pris de doute à ce sujet de promesse. Eh bien, il estime que l'école immédiate de l'épreuve du sacrifice d'Isaac, c'est le fait qu'Abraham laisse dire à Abimelech, qui était l'occupant du pays, lui laisse dire « ma terre ». Alors tout de suite, Dieu dit à Abraham, rappelez-vous le verset, « Va'eli, ahravarim a dit ». Il arriva après les événements précédents que Dieu mit à l'épreuve Abraham. Les événements précédents, quand Abraham contacte une alliance avec l'occupant du pays, et lui laisse dire « ma terre ». Alors Dieu dit à Abraham, « L'enfant que je t'ai donné avec la promesse de cette terre, rends-le-moi. » Je veux dire que chaque fois qu'il y a un doute d'identité, il faut corriger ce doute d'identité par l'expérience opposée. Ce n'est, et ça je dis du Maharal, que lorsque la descendance d'Abraham saura en fin de compte qu'elle n'est chez elle que sur la terre d'Abraham, qu'elle pourra y revenir. Mise en bouteille au château. Très bien. Eh bien,
Et c'est pas nécessaire, encore une fois, que ce soit la situation d'exil dans le sens négatif. Et là, ça se rebranche un peu avec votre question. Ce n'est que dans la mesure où il y a faille d'identité au niveau de l'identité d'Israël que l'une des situations se transforme dans l'autre. Et au fond, je dirais que c'est peut-être l'objet de la reformulation du débat contemporain entre l'Israël et la diaspora. S'il y a une mission d'Israël dans l'universel humain, est-il nécessaire, et je pose la question de façon un peu brutale pour la rendre plus claire, est-il nécessaire que ce soit dans la situation d'otage éventuel, d'un antisémitisme éventuel, ce qui est la situation des communautés de diaspora, ou n'est-ce pas possible, en tant que voyageur venu d'Israël, vous voyez la différence, alors que le travail pourrait être le même, la situation existentielle n'a strictement rien à voir. Oui. Simultanément, en tant que Sfarad dans le monde de l'islam, Ashkenaz dans le monde de la chrétienté, l'exil chez Ishmael et chez Eden. Et c'est pourquoi dans la typologie de l'historiographie juive, il y a au ciel, si je veux dire, alliance totale des intérêts d'Ishmael et de Edom, au point qu'ils ont le même Tsar. Le diagnostic dans les événements de l'existence n'est pas facile à faire, mais on ne peut pas ne pas globalement percevoir une sorte de convergence d'intérêts de la civilisation des Aïe et de celle d'Ishmaël par rapport à la prétention de souveraineté d'Israël. Ce qui avait d'étonnant dans le Maharal, c'est qu'il dévoile avant la lettre que ça éclaterait en Perse. Et j'ai lu, avant d'arriver d'Israël, alors que vous savez à quel point les conflits entre Arabes sont graves, parce que c'est des barils de dynamite dans cet endroit du monde, et en particulier le conflit entre l'Irak et l'Iran, que les champs de manœuvre des Iraniens sont appelés champs de manœuvre pour la libération de Jérusalem. Je ne sais pas si vous en avez compte. Alors d'où le Maharal savait tout ça, je ne sais pas.
Oui. Je vais avoir du mal à formuler la question. Dans la situation où chaque peuple doit avoir sa terre. D'une part, d'ailleurs, on parle d'empire. Les empires sont formés peut-être d'un peuple homogène ou peut-être de plusieurs peuples qui ont été mis sous le joug par un peuple plus fort que les autres. Et contrairement à cette question, on croit s'il n'y a que des empires et pas de. En ce moment, il y a de grands empires, on peut dire. Et puis il y a d'autres pays, d'autres peuples qui cherchent une certaine différence par rapport à ces deux empires. C'est-à-dire, quand un empire existe, tout n'est pas sous cet empire. Alors, je rapproche ce souci de savoir s'il s'agit. Chaque peuple a sa terre. Et qu'est-ce que la terre empire? Et de savoir, pour ce qui nous concerne actuellement, quels sont les pays, on dit géographie.
Est-ce que forcément cette correspond à des limites géographiques précises qu'il fallait défendre? Et quelles sont les limites de la terre d'Israël, des Hébreux?
Est-ce qu'il y a quelque chose de précis dans ma...
À qui peut-être...
Je m'excuse de mettre les gens qui s'en vont. Je voudrais rappeler que la soirée se poursuit avec les questions. Je voudrais rappeler que les gens en ont tous se poursuivent demain matin et demain soir. Et que par ailleurs, parce que nous n'avons pas le même problème, que nous avons hier soir, plus de 300 personnes qui ont été assistées au droit et en levée de manifestation, que nous fassions crier dans le portail qui a donné jeudi soir en demain de matin, tout le monde, s'il vous plaît.
À qui était adressée la question? Votre question porte sur les limites géographiques de l'Israël et sur jusqu'où l'État d'Israël, l'État d'Israël doit défendre les limites de sa géographie ou les géographies de sa limite, c'est plutôt ça. Il n'y a pas, à ma connaissance, ici on corrigera, il n'y a pas à ma connaissance de débat à l'intérieur du Maral de Prague sur je dirais, la conception géopolitique ou stratégique. Il y a simplement une réflexion sur sur deux notions fondamentales. D'un côté, une situation qui peut être exprimée comme existentielle, c'est-à-dire une situation d'exil, et cette situation d'exil mène, pas nécessairement, mais amène le peuple juif à réfléchir sur cette situation et à accepter un destin, ou plutôt à aller vers une certaine aventure qui est son propre destin. Et il y a, d'un autre côté, une réflexion sur la nation, sur le concept de nation et sur les droits d'une nation. Mais il n'y a pas une connaissance, dans le Maral de Prague, dans les textes de réflexion sur les limites d'Eretz Israël, et sur, ce que sera Eretz Israël à l'intérieur du lutte entre les empires. Je voudrais simplement ajouter une dimension de réponse à votre question. C'est que, d'après l'historiographie du Maharal, il me semble que le Maharal aurait tendance à dire que de notre temps, il y a un seul empire. Celui que nous appellerions, avec notre vocabulaire, celui de la civilisation occidentale, qui, de plus en plus, tend à devenir planétaire, quels que soient les conflits intérieurs des provinces de cet empire unique. Et si nous nous plaçons du point de vue très israélo-centriste du Maharal d'ailleurs, et dans la situation géopolitique qui est la nôtre, de façon accélérée depuis 35 ans de l'existence de l'État d'Israël, il est bien évident qu'Israël ne tient la reconnaissance de son existence que d'un consensus universel où il ne la tient pas. C'était par une sorte de furtif miracle de l'histoire que les Russes et les Américains ont voté ensemble à l'ONU pour l'existence de l'Israël. Et depuis, il est évident que tant qu'ensemble ils ne sont pas d'accord pour qu'Israël existe, quelles que soient d'ailleurs les limites administratives et frontières, cette existence risque d'être en question. Le Maharal nous ferait dire il y a un seul empire contemporain. C'est l'empire de la civilisation occidentale avec ses techniques, ses fabriques d'armes et ses problèmes économiques, politiques, etc., qui sont des sous-problèmes de la même civilisation. C'est dans ce sens-là qu'il avait parlé des trois empires précédents.